Profitez de votre week-end avec Europe 1. L'actualité de ce dimanche avec Émilie Bonneau et Bernard Poiret.
Émilie, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de ce journal.
Des centaines de sinistrés en hébergement d'urgence au lendemain de la très forte explosion dans le 9e arrondissement de Paris. Les gilets jaunes encore plus mobilisés hier que samedi dernier. Nous serons à Bourges et puis le foot Saint-Etienne toujours bien présent dans la course au podium de la Ligue 1 avant Marseille-Monaco ce soir.
Ce sont 600 personnes, 600 tout de même, qui ne peuvent toujours pas ce matin rentrer chez elles après la puissante explosion due au gaz hier dans le 9e arrondissement de Paris.
Oui, des habitants du quartier ont évacué après la catastrophe, cette fuite de gaz qui a fait au moins 3 morts, dévasté toute la rue de Trévise, soufflé les vitres alentours et touché une vingtaine d'immeubles. Ils doivent encore être sécurisés dans les prochaines heures et les sinistrés viennent donc de passer la nuit en hébergement d'urgence ou chez des amis dès hier. La solidarité s'est organisée. Victor Dolande pour Europe 1.
Francisco était encore dans son lit quand il a entendu l'explosion. Dans son appartement du 6e étage, cet étudiant mexicain a eu très peur. Mais il n'a mis que quelques minutes à reprendre ses esprits avec immédiatement l'envie de porter secours à ses voisins.
J'ai eu le besoin mais d'aller aider. Je me suis mis à chercher les voisins, que tout allait bien.
Avec sa petite amie, ils ont été très vite pris en charge par les secours. Conduits à la mairie du 9e arrondissement de Paris, des bénévoles les ont aidés. Un peu de nourriture et surtout une chambre d'hôtel pour les prochaines nuits. Totalement paniquée par l'explosion, Claudia a apprécié toutes ses aides.
Vraiment, il y avait beaucoup de solidarité ici aussi, avec la Croix-Rouge, avec la police, aussi avec les boissons et tout. Vraiment, c'était super.
Gypsy Block, adjoint à la mairie du 9e arrondissement de Paris, a reçu de très nombreuses propositions de soutien.
Des gens qui sont venus spontanément nous annoncer qu'ils disposaient d'une ou deux places pour héberger des familles, des touristes. Et puis des hôtels de quartier également qui se sont proposés spontanément pour nous faire part de leurs possibilités d'accueil de famille.
Grâce à cette solidarité, tous les habitants sinistrés ont pu être relogés la nuit dernière. Ils attendent désormais de pouvoir rentrer chez eux.
Victor Dolande, et ce matin, un élu de Paris dénonce dans le journal Le Parisien un réseau de gaz catastrophique dans la capitale. Alexandre Vesperini, membre de la Commission supérieure de contrôle justement du gaz.
Également dans l'actualité, bien sûr, la mobilisation hier des Gilets jaunes. Une mobilisation plus calme que samedi dernier et aussi avec plus de monde sur le pavé, dans les défilés.
Le ministère de l'Intérieur, en effet, a recensé 84 000 manifestants. C'est 34 000 de plus que le week-end précédent. Du monde notamment à Bourges, lieu de rassemblement choisi par certains car c'est au centre du pays et le message est bien passé. Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1.
Premier constat de cette journée, la réussite de la mobilisation. Au total, plus de 6000 gilets jaunes ont répondu à l'appel, comme Carole, venue du Jura.
J'ai trouvé ça vraiment excellent parce que Bourges étant le centre de la France, j'ai trouvé ça très bien par rapport aux gilets jaunes qui voulaient venir et qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à Paris.
Les revendications, elles, étaient aussi nombreuses que le nombre de manifestants, mais beaucoup de retraités étaient là pour défendre leurs droits.
J'ai travaillé 40 ans comme beaucoup de personnes. J'ai 1000 euros de retraite. Et comment je fais pour payer et la voiture et un logement et tout le reste? C'est indispensable.
L'autre point à souligner, c'est que la majorité du rassemblement a été pacifique, même si on a pu observer plusieurs moments de tension et des affrontements avec les forces de l'ordre dans le centre de Bourges, interdit de manifestation. Mais au final, il y a eu peu de dégâts, comme le reconnaissait Agnès, responsable d'une boutique de décoration.
On a eu un petit peu de crainte, mais ça s'est relativement bien passé. Par contre, ce n'est pas une ville où il faut prendre l'habitude, laissez-nous tranquilles. Et aujourd'hui, avec ce phénomène de gilets jaunes, personne n'est venu acheter, donc comment on fait? Comment on fait? Qui va nous aider? Qui va nous défendre?
D'après la préfecture, 11 personnes ont été blessées hier à Bourges, dont 2 CRS. Parallèlement, il y a eu une vingtaine d'interpellations. Bourges, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Au total, ce sont 244 manifestants qui ont été interpellés hier à travers la France. Et parmi les principales revendications des Gilets jaunes, il y a toujours le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et bien le tout premier, même s'il n'a aucune valeur juridique, se tient dans une petite commune de l'Isère, organisée par 2 associations qui veulent montrer l'exemple. À Saint-Clair-du-Rhône, Rémi Pierre pour Europe 1.
Une tente blanche baptisée « Bureau de vote » installée de l'autre côté de la route face à la mairie. À l'intérieur, une table, la liste électorale du bureau numéro 3 de la commune, une urne transparente scellée et des électeurs.
Alors, je vais vous proposer de mettre l'enveloppe verticalement, lâchez-la, à voter.
La question de ce référendum est simple, êtes-vous pour ou contre le RIC? Martine est venue voter avec son mari.
Je suis convaincue de ce RIC. Je suis peut-être pleine d'illusions, mais j'espère que ça va changer.
Un référendum conforme à l'article 3 de la Constitution souligne...
La suite de l'actu avec Émilie Bonneau et Bernard Poirette.
En Grande-Bretagne, le vote approche, le vote des parlementaires bien sûr qui doivent se prononcer mardi pour ou contre l'accord négocié par leur gouvernement pour le Brexit.
Oui, une majorité s'est déjà prononcée contre. La première ministre Theresa May s'attend à une défaite et certains craignent les mois à venir, le flou qui s'annonce et se prépare donc en faisant du stock de marchandises à Londres pour Europe 1, Anaïs Cordoba.
Depuis août dernier, Jane dépense 45 euros de plus chaque mois au supermarché en achat de vivres supplémentaires. Elle les a entreposés dans les placards, sur le haut de la bibliothèque. Il y a même un sac de riz de 10 kilos sous l'escalier.
C'est beaucoup trop, mais au moins ça me durera des mois. Là, il y a des pois chiches, des haricots, de la viande transformée. Je n'aime pas du tout ça, mais c'est juste au cas où. Et là, il y a entre 30 et 40 boîtes de nourriture pour mon chat. Ça lui tiendra environ 2 mois. Je suis inquiète de ce qui va se passer en mars, mais aussi de ce qui peut se passer avant. Il pourrait y avoir une panique. Et s'il y a panique, alors c'est là que commence la pénurie.
Ils sont de plus en plus nombreux dans son cas. En Grande-Bretagne, une entreprise de vente sur Internet d'aliments lyophilisés vient même de lancer une Brexit box contenant 60 repas. Son créateur, James Blake, en vend jusqu'à 30 par jour.
Les gens ont peur en ce moment. Ils ne savent pas ce qui va arriver, pour la simple et bonne raison que le gouvernement non plus ne le sait pas. La Brexit box leur redonne donc un peu de contrôle. Je peux avoir un peu de contrôle en étant préparé.
Et selon James, la majorité des clients de la Brexit Box n'avaient jamais stocké de nourriture auparavant. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis c'est l'info à la une ce matin sur les réseaux sociaux. Un paquebot géant a dû écourter sa croisière dans les Antilles à cause d'une vaste épidémie de gastro. 500 des 6000 passagers sont tombés malades et comme la Jamaïque a refusé de laisser débarquer les touristes contaminés, bien le bateau a fait demi-tour pour rentrer un jour plus tôt en Floride. La compagnie Royal Caribbean tente désormais de rassurer les clients qui ont réservé sur le prochain voyage. Elle assure que tout sera minutieusement décontaminé.
C'est la croisière maudite, ça c'est l'enfer.
À 7h09, c'est le moment de s'intéresser au sport avec Émilie Bonneau.
D'abord le football, Émilie. Saint-Étienne est de retour au pied du podium en Ligue 1.
Alors, égalité de points avec Lyon 3e et qui justement se déplace la semaine prochaine à Geoffroy Guichard. Le derby s'annonce donc prometteur. Saint-Étienne vainqueur hier soir 1-0 à Guingamp. Première victoire à l'extérieur depuis la fin du mois de septembre grâce à un très bon état d'esprit de l'équipe, le défenseur Timothée Kolodziejczak.
On est unis, on est soudés, ça se voit sur le terrain, on s'encourage beaucoup. Donc voilà, maintenant faut bien récupérer et faire le job à la maison, même si on va jouer contre de grandes équipes, Marseille et Lyon. Voilà, on va s'attendre à deux gros matchs qui sont importants pour nous. Mais on sera à domicile, on aura à cœur de faire des bons résultats devant notre public.
Timothée Kolodziejczak avec Hervé Bride pour Europe 1. La victoire également hier soir 1-0 de Nice face à Bordeaux. Et celle du Paris Saint-Germain 3-0 à Amiens. Les Parisiens remis donc un de leur élimination en Coupe de la Ligue. Sans Neymar toutefois laissé au repos à cause d'une douleur à un genou.
Et aujourd'hui à l'affiche de cette 20e journée de Ligue 1 et pour clore cette journée, l'OM qui est en pleine crise reçoit Monaco qui est en pleine crise aussi.
Oui, les Marseillais face à leur supporters cette semaine, qui sont venus manifester devant la commanderie. Ils restent sur une série de 7 matchs sans victoire, éliminés de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. Et en première ligne se trouve l'entraîneur Rudy Garcia.
On préfère les après-qualifications, après Leipzig et Salzbourg l'année dernière, par exemple, parce que les supporters à ce moment-là sont très positifs, y compris envers l'équipe et envers moi. Mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut accepter. Dans ces moments difficiles, en fait, il y a quelque chose qui est très très positif. C'est que vous voyez qui sont vraiment les gens qui vous soutiennent. Et bien évidemment, ça qui compte, c'est d'avoir du positif autour de soi. J'en ai pas spécialement besoin, mais c'est toujours intéressant de compter ses amis dans ces périodes un peu plus compliquées.
Rudy Garcia au micro de Yann Théroux. OM Monaco, ce sera à 21h ce soir. Les autres matchs, 15h Nantes-Rennes, 17h Dijon-Montpellier et Toulouse-Strasbourg. Et puis le foot, c'est aussi évidemment l'émission spéciale à ne pas rater ce soir sur Europe 1. Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde, répond aux auditeurs à partir de 20h.
Au mondial de handball en Allemagne, ça va déjà beaucoup mieux apparemment pour les Français.
Avec une victoire très intéressante hier soir, 32-21 face aux Serbes. Et après un premier match poussif vendredi, les Bleus retrouvent aussi Nikola Karabatic, pas sur le terrain pour le moment, mais c'est déjà ça qu'il soit revenu, son frère Lucas.
Je pense qu'on est tous heureux de le voir ici. Ouais, c'est un joueur emblématique de cette équipe de France qui a tout vécu et de le voir avec nous, ouais, c'est un plaisir parce qu'on a partagé tellement de choses avec lui et lui a tellement donné à cette équipe que c'est quelque part c'est naturel de le voir ici. Et il manquait quelque chose à la limite quand Nico n'était pas là, donc c'est vraiment bien, même s'il n'est pas sur le terrain, sa présence peut, peut que nous apporter, parce que voilà, comme je le disais, un joueur comme ça, par son savoir et sa connaissance, peut être que du positif pour notre équipe.
Luka Karabatic répondait à Christophe Lamar pour Europe 1. Demain, match face à la Corée et puis mardi, le choc attendu face à l'Allemagne.
Ceci conclut le journal de 7h présenté par Émilie Bonneau. Je rajoute juste, suite à une dépêche AFP qui nous vient d'Amérique latine à l'instant, que Cesare Battisti, auteur de romans policiers bien connus et ancien militant d'extrême gauche italienne, vient d'être arrêté en Bolivie. L'Italie n'a jamais renoncé à l'extradition de Battisti, qui est accusé d'un quadruple assassinat dans les années de plomb, les années 70 en Italie. Il était réfugié au Brésil, il a pris la fuite, il a été arrêté en Bolivie. On verra si la Bolivie l'extrade vers Rome. On vous tient au courant, bien sûr, dans les prochains journaux.